France Culture. Les nuits de France Culture.
Dans la mémoire de la guerre et de la décolonisation de l'Indochine française, c'est l'histoire militaire, bien sûr, qui domine avec Dien Bien Phu, Cao Bang et d'autres épisodes qui marquèrent leur époque et l'opinion publique. Mais pour des milliers de Français dont l'histoire fut forgée par ces événements, l'essentiel se joue peut-être ailleurs, dans les souvenirs personnels de ce que fut pendant des décennies cette colonie des confins du monde. Souvenirs d'exotisme, d'appels du lointain, souvenirs d'une culpabilité aussi, ou du moins d'une conscience même ténue, de la réalité crue d'un système de violence coloniale. Namstalgie, l'album indo-chinois. C'est le titre de l'émission que voici, premier épisode d'une série de Nuits Magnétiques diffusée pour la première fois sur France Culture le 21 mars 1995.
Nuits Magnétiques, bonsoir. Il y avait beaucoup d'enfants dans la plaine, écrivait Marguerite Duras en 1958 dans une des pages du barrage contre le Pacifique. Il y avait beaucoup d'enfants dans la plaine. Il y en avait partout, perchés sur les arbres, sur les barrières, sur les buffles, qui rêvaient ou accroupis au bord des marigots, qui pêchaient ou vautraient dans la vase à la recherche des crabes nains des rizières. Dans la rivière aussi on en trouvait, qui pataugeaient, jouaient ou nageaient. Et à la pointe des joncs qui descendaient vers la grande mer, vers les îles vertes du Pacifique, il y en avait aussi qui souriaient, ravis, enfermés jusqu'au cou dans de grands paniers d'osier, qui souriaient mieux que personne n'a jamais souri au monde. Et toujours avant d'atteindre les villages du flanc de la montagne, avant même d'avoir aperçu les premiers manguiers, on rencontrait les premiers enfants des villages de forêt, tout enduits de safran contre les moustiques et suivis de leurs bandes de chiens errants. Car partout où ils allaient, les enfants traînaient derrière eux leurs compagnons, ces chiens errants, efflanqués, galeux, voleurs de basse-cour, que les Malais chassaient à coups de pierre et qu'ils ne consentaient à manger qu'en période de grande famine, tant ils étaient maigres et coriaces. Dès le coucher du soleil, les enfants disparaissaient à l'intérieur des paillotes où ils s'endormaient sur les planchers de lattes de bambou après avoir mangé leur bol de riz. Et dès le jour, ils envahissaient de nouveau la plaine, toujours suivis par les chiens errants qui les attendaient toute la nuit, blottis entre les pilotis des cases, dans la boue chaude et pestilentielle de la plaine. Nuit Magnétique, toute cette semaine, une série de Marie-Hélène Bernard, Catherine de la Clergerie et Marie-France Nussbaum. Ce soir, l'album indochinois.
Voyez-vous, l'Indochine est baignée par l'Irrawaddy, par le Salouem. Par le Mélam, par le Mékong, et tout là-haut, par le fleuve rouge.
Je sais ça, moi.
Elle comprend la Birmanie, la presqu'île de Malacca, le Siam, le Cambodge, la petite Cochinchine française, l'Annam, le Laos, et tout là-haut, le Tonkin. Ça, c'est de la France.
Nous ne sommes pas ici au certificat d'études, voyons.
Mais qu'est-ce que c'est que Paris, monsieur, la France, l'Europe? Ce sont des gens tristes sous un ciel gris. Là-bas, il y a le soleil, il y a la lumière, monsieur, la couleur, toutes les couleurs. L'orange, le rose, le vert, le jaune, le bleu pâle. L'outre-mer, là-bas. Il y a l'outre-mer.
Là-bas, là-bas.
Là-bas, ah, oui, ah, en Orient.
Moi, quand j'étais petite, je vivais dans le Jura et il y avait un jeune homme dans le petit patelin où j'étais qui s'appelait Tonkin. Il avait fait son service en Indochine et il était resté Tonkin. Ça frappait donc quand même beaucoup les imaginations des gens dans les années 30-45. Parce que, oui, c'est ça, c'était exactement à cette époque-là. Le Tonkin dont je parle, mon Tonkin à moi, il devait avoir 25 ans, en 43, quelque chose comme ça. On disait le Tonkin, on ne disait pas l'Indochine. Le Tonkin gardait son étrangeté. Puisque le fait d'y aller vous baptisait du même coup, vous donnait une identité.
Attends ma paillote, entièrement de ma fabrication.
J'avais la même au Tonkin.
On ne se croirait pas en France ici.
Est-ce que tu as voyagé, toi?
Non, il n'a pas dû voyager. Moi, j'ai fait mon service dans l'infanterie coloniale. 5 années de jeûne.
Allez, voyage, que ça te rêve. Hein?
Le personnage de Goupil Main Rouge, moi, il m'avait intéressé parce que il me semblait qu'il résumait très bien dans ses paroles l'image qu'on avait de l'Indochine, c'est-à-dire d'un pays extraordinaire. Quand il dit c'est rouge, c'est bleu, c'est vert, etc., c'est le soleil, bon, c'est quelque chose de superbe pour qui l'a connu et quelque chose de très bizarre pour qui ne l'a pas connu. Quelque chose dont on se méfie un peu, je pense.
Et dans, entre les deux guerres, vous avez l'impression, par exemple, finalement, que dans chaque village en France...
Je pense qu'il y avait un Tonkin.
Il y avait un
oui,
Tonkin.
Je suppose.
Je me souviens de ce Bouddha en porcelaine ventrue qui trônait sur le buffet de la salle à manger de ma grand-mère. Totalement incongru dans cette ferme lorraine des années 50, il avait l'attrait mystérieux d'un extrême-orient imaginaire que j'allais bientôt retrouver dans Tintin et le Lotus Bleu. Il y avait aussi dans le couloir une grande lanterne en tissu dont les dragons noirs projetaient des ombres inquiétantes sur les murs. Tout cela venait de cette Indochine lointaine que les grandes personnes évoquaient à mots couverts pendant les longs repas dominicaux, en échangeant des nouvelles de la partie de la famille qui était allée là-bas faire fortune dans l'EVA.
Jean-Luc Coatalem, il y avait une vieille malle au grenier chez vous.
Oui, effectivement, il y avait une vieille malle que je tenais de mon grand-père dans un appartement de Brest. Et dans cette vieille malle, il y avait un casque colonial, des guêtres et un baudrier et un étui à pistolet. Effectivement, cette malle que j'ai découverte un peu par hasard, parce que chez nous, c'était quelque chose d'assez caché, je dirais, même au niveau relationnel. On ne parlait pas du Vietnam, on ne parlait pas de l'Indochine. Cette malle a servi en quelque sorte de détonateur pour moi, d'autant que cette malle était accompagnée d'une série de photos, qui étaient des photos d'époque, dont des photos sépia, avec le bord dentelé, avec les couleurs un petit peu passées. Et sur ces photos, il y avait donc mon grand-père, paternel, que je n'ai jamais connu, en officier d'infanterie coloniale. Les photos que j'ai sont des photos qu'il envoyait à sa mère. Donc des photos assez soft. Donc on le voit effectivement, mais c'est des photos classiques. On le voit avec les cheveux à plat, gominés, presque la tête d'un danseur de tango en blanc, avec un mobilier un petit peu léger, clair, avec les ventilateurs, la moustiquaire, fumant des cigarettes sur la terrasse. Et puis cet air qu'ils ont tous complètement, on a l'impression qu'on les... Toujours pour le temps de pause, probablement, on a l'impression qu'ils sont comme des coléoptères piqués sur une planche de liège, ils sont statufiés. Donc c'est, voilà les seules photos que j'ai. Ou alors ce sont des photos où il est en opération, où effectivement il y a derrière lui des tirailleurs annamites qui le suivent et ils sont en colonne. Finalement, ce sont des hommes seuls. C'était des gens qui étaient probablement des hommes d'action, donc des hommes qui ne parlaient pas et qui aussi ne voulaient pas parler. Donc c'était des choses qui étaient assez cadenassées. Donc cette malle, il y avait un verrou dessus. C'était le verrou finalement de la parole. On n'en parlait pas. Pour des raisons compréhensibles, c'est-à-dire que c'était des gens qui avaient souffert de cette période-là, qui s'étaient battus, qui avaient été blessés. Donc c'était des gens qui étaient marqués, je dirais, à la fois dans leur histoire et aussi dans leur chair. Parce qu'il faut imaginer quelqu'un de 30 ans qui sort des tranchées, qui est blessé. La Première Guerre mondiale a été un choc dans les mentalités, je dirais, même dans la conception du monde, quelque chose de formidable. Et peut-être a-t-il cherché, d'une certaine façon, en étant muté en Indochine, à renaître.
J'ai l'impression que le secret, ça traverse beaucoup de familles coloniales indochinoises. Vous l'expliquez par la souffrance, mais après tout, la guerre de 14, les grands-pères en parlaient.
Oui, probablement aussi qu'il y avait sur la guerre d'Indochine, comme sur la guerre d'Algérie, une sorte de honte en tant que puissance coloniale. Il y a peut-être aussi en plus une sorte de culpabilité. Et le silence vient peut-être aussi de ça.
Mais c'est une piste, mais est-ce que vous n'avez pas l'impression aussi que c'est tellement un ailleurs que ce n'était pas dissible ?
Peut-être. Moi, j'ai l'impression, pour avoir rencontré des gens qui ont été donc dans l'armée à cette époque-là, en Indochine, au Vietnam, c'était un autre monde. C'était une liberté, je dirais, des sens, hein, liberté sexuelle aussi, une sorte de frénésie. C'est des gens qui arrivaient quand même, enfin, nous, famille bretonne, donc peut-être assez aussi étriquée, dans des milieux très fermés. Bon. Donc il y avait une libération, mais il y avait peut-être pour ces gens-là aussi une sorte d'ivresse à découvrir un autre pays, tellement loin finalement de nos habitudes européennes que. Puis il y avait la morale. La morale était beaucoup plus marquée que maintenant. Et c'était peut-être aussi des choses difficiles à raconter, ne serait-ce qu'à son entourage. Entre copains, peut-être pas. On allait faire la bombe à Cholon, mais une fois qu'on était à Guy Pavas ou à Landerneau, il y avait des choses difficiles à dire. Je crois malheureusement qu'il avait peu de relations avec les populations locales. La colonisation n'est pas un genre où l'humanisme est la première vertu, et je pense qu'il devait y avoir effectivement un fossé entre, d'autant qu'il était militaire, donc représentant de la force, etc. Et j'imagine que c'est... D'ailleurs, sur les photos, j'ai quelques photos de lui, et il y a une photo assez étrange. Ça se passe à Saïgon, ils sont sur un banc, et il y a 5 ou 6 officiers qui sont en civil, et visiblement, ils vont vivre leur vie. Ils sont tous endimanchés, ils sortent de chez le coiffeur, ils fument leurs cigarettes sans fil, parce qu'à l'époque, on se pose pas ce genre de questions. Et ils sont immobiles, parce qu'à l'époque, ils font un temps de pause. Donc il faut rester fixe par rapport à l'objectif, sinon c'est bouger. Et donc vous avez ces 6 personnages, dont un aviateur d'ailleurs, qui sont, je dirais, presque statufiés. Et derrière, vous avez la foule qui se presse pour voir le photographe, et elle qui bouge, parce qu'elle se contrefiche de... Et donc vous avez ces 6 bonhommes qui sont comme des piliers de pierre, et derrière une sorte de magma de visage qui bouge comme des têtes de méduses un peu. Et je pense que c'était ça finalement leur relation au pays, c'est que d'abord les gens étaient derrière eux et ils ne marchaient pas à la même vitesse. Ils n'étaient pas sur le même, sur la même longueur d'onde.
Et si on se penche sur la séduction, de quoi elle s'alimente à votre avis ?
La séduction, elle s'alimente de l'exotisme, je crois, essentiellement. Les documents fixes jouent beaucoup sur, comme ils n'ont pas de couleur, comme ils sont quand même relativement secs, c'est de la gravure, hein. C'est des photos qui sont retraduites en gravure. Les documents jouent surtout sur les mots. Les noms et les légendes qui viennent donner de la couleur. Alors, on insiste en effet sur les noms, le fleuve rouge, la pagode d'or, la rivière des perles, etc. Et toute la poésie vient de l'écrit qui accompagne ces documents. Il y a une sorte de parallélisme entre l'écrit, la légende, ou l'article même, et puis l'image. Cependant, dans l'image, la séduction n'est pas absente, elle n'est pas entièrement déportée vers le texte, elle est aussi dans la manière de dessiner les arbres et les maisons. Les arbres sont très très beaux avec des petites feuilles minuscules, ça c'est très frappant, comme des quantités de petites aiguilles très fines. Et les Français qui lisent ça ne sont pas habitués, leurs arbres n'ont pas des feuilles très fines. Je dis des aiguilles, c'est une bêtise, ça ne ressemble pas à des sapins. Ça, c'est des feuilles fines, mais molles, visiblement, tant qu'on puisse voir sur une image. Et effectivement, ces arbres ne ressemblent pas du tout aux arbres français. Alors ça, ça joue beaucoup. Et puis les maisons. Alors toutes les maisons sont effectivement le plus exotique possible, avec les toits retournés, peut-être même des choses qui ne sont pas typiques du Vietnam, je ne sais pas, qui sont peut-être plus chinoises que vietnamiennes, mais le décor et l'architecture sont donnés comme exotiques. Et la poésie vient des mots.
Attention aux roches et surtout attention aux mirages. Le Yangtze-Kiang n'est pas un fleuve, c'est une avenue. Une avenue de 5000 km qui dégringole du Tibet pour finir dans la mer Jaune, avec des joncs et puis des sampans de chaque côté. Puis au milieu, il y a des tourbillons d'îles flottantes avec des orchidées hautes comme les arbres. Yangtze-Kiang, camarades, c'est des millions de mètres cubes d'or et de fleurs qui descendent vers Nankin. Puis avec tout le long des villes pontons où on peut tout acheter, les alcools de riz, les religions, et puis les garces et l'opium. Je peux vous affirmer, tenancière, que le fusilier marin a été longtemps l'élément décoratif des maisons de thé. Dans ce temps-là, on savait rire. Elle s'était mise sur la paille pour un maquereau roué rose.
Oh, c'est beau.
C'est pas de moi. C'est des vapes comme ça qui me reviennent quand je descends le fleuve.
Je croyais que c'était une avenue.
On sait pas. C'est peut-être un rêve qui se jette dans la mer.
Mais est-ce que derrière cette poésie, vous aviez l'impression qu'il y a un travail de propagande pour attirer des Français là-bas ? Parce qu'il faut quand même qu'il y ait des planteurs qui se décident, enfin, il faut inciter au départ.
Honnêtement, dans les documents que j'ai vus, c'est-à-dire surtout ceux de la fin du 19e siècle, il n'y a pas vraiment de propagande. C'est seulement vu en cavalcade héroïque pour apporter la civilisation aux gens qui ne l'auraient pas telle que nous l'avons. On ne leur conteste pas une civilisation, mais on suppose que la nôtre est quand même mieux, qu'on peut leur apporter des écoles, etc. La propagande, elle est plus tardive, elle est d'après la guerre de 14. Et après la guerre de 14, effectivement, les petits documents, mais alors là, on abandonne les gravures de l'illustration, on passe à une autre série de documents, qui sont les documents filmés de l'établissement cinématographique et photographique des armées, et les petits documents sont réellement de propagande. Il y a en effet une coïncidence entre le fait que l'Indochine est relativement pacifiée et le fait que la guerre a pris fin en Europe, et le tout fait une conjoncture relativement paisible qui peut favoriser une expansion. Et on montre en effet l'Indochine sous un jour qui s'européanise. Et ça, c'est, je pense, un appel pour montrer que ça n'est pas un pays seulement exotique, sous-entendu dangereux, mais exotique et tout à fait arrangeable, tout à fait habitable. Et les petits documents montrent en effet des premières constructions d'églises, des premières constructions de commissariats, toutes sortes de choses, l'ordre quoi, qui s'établit et qui apparaît un peu incongru, mais malgré tout rassurant dans ce décor, qui est toujours très joli.
Les faubourgs de Pékin, on rencontre des apaches qui ont un petit air coquin
et du riz sur les moustaches.
Le soir quand sonne minuit, qu'elle est sur le bord du fleuve, ce couple qui va sans bruit
comme une couleuvre.
C'est le jeune tulipan qui va faire la fête.
C'est surtout dans les années 20-30 que la belle colonie attire un certain nombre de Français. L'aventure indochinoise commence à Marseille. Là, sur les paquebots des messageries maritimes à destination de Saïgon, se retrouvent planteurs, négociants, fonctionnaires, aventuriers et bien entendu des militaires flanqués de leurs petites familles.
Qui va faire la fête, il amène sa gigolette sur le Yang-Tsé-Kiang. Mais un cri perce la nuit. C'est la barque qui chavire, la barque qui ensevelit le couple en délire. Car Tulipan, ce filou, en séduisant la pauvrette, lui a dérobé ses bijoux pour payer ses dettes. C'est un drame angoissant sur les bords du fleuve. C'est le fleuve qui s'abreuve de gouttes de sang. Le chinois frémissant poignarde sa gosse. Puis il part faire la note loin du Yang-Tsé-Kiang.
Suzanne Preux, vous avez été marquée, je crois, par votre enfance, petite enfance au Vietnam. Mais quand on voit les dates de vos livres, vous avez écrit beaucoup de livres avant de vous décider à écrire La petite tanquinoise. Pourquoi ?
C'est pas ma petite enfance que j'ai passée au Vietnam. Quand j'y suis partie, avec mes parents, bien entendu, j'avais 7 ans. Mon père était militaire, il était officier d'infanterie coloniale. Alors, moi, ce qui m'a touchée en Indochine, ça a été la luxuriance des choses. C'était mon jardin, d'ailleurs, ça se voit dans le livre. C'était mon jardin, c'était les plantes, c'était les arbres, les fleurs, les bêtes, tout ça, qui était absolument formidable. L'allée où nous habitions débouchait sur un bras du fleuve Rouge. Et alors, des fois, nous allions nous promener à bicyclette le long du fleuve. Alors là, on voyait des enfants anamites qui étaient tout nus d'ailleurs. Et puis même des grandes personnes qui pêchaient. Il y avait des messieurs qui étaient complètement tout nus, avec simplement une ficelle autour de la taille et leur panier qui pendait à la ficelle. Voilà, c'est tout. Et puis quelquefois, nous allions en voiture, à cheval, avec le père de l'un de nous qui avait une voiture et un cheval. Et alors nous passions le long du fleuve. Et puis nous voyons les sampans qui glissaient sur l'eau et puis les grands filets de pêche triangulaires qui plongeaient, qui remontaient. Enfin, c'était très beau. C'était vraiment un paysage de paravent japonais. Nous vivions dans un camp, le camp des officiers, c'est-à-dire que c'était une grande allée avec des maisons, des belles maisons de chaque côté, dans des beaux jardins. Et voilà quoi. Et puis nous allions à l'école dans la ville, mais bon, nous étions tous les enfants. Alors là j'avais des enfants de mon âge et nous formions une bande. Et au fond, les grandes personnes s'occupaient pas beaucoup de nous. Nous avions des tibas ou des tihai, c'est-à-dire des vietnamiennes, enfin des indochinoises. On appelait ça des anamites à l'époque, qui s'occupaient de nous. Mais les parents, ils étaient très pris par, je sais pas, les réceptions, les cocktails, les soirées, tout ça, quoi. Alors nous étions un peu livrés à nous-mêmes et nous nous amusions follement.
Mais vous étiez toutes entre Français et Françaises.
Ah oui, oui, oui. Parce que dans notre école, les gens, les indigènes, n'avaient pas le droit de venir. Dans l'école privée, il y avait des anamites qui pouvaient venir. Mais dans l'école publique où j'étais, il n'y en avait pas. Il y avait quelques métisses, mais il n'y avait que des Français. La plupart, c'était des enfants de militaires, d'officiers ou de sous-officiers, ou alors des gens, des fils et des filles d'administrateurs. Mais bon, nous n'étions qu'entre Français.
Et comment vous ressentiez les enfants métis ?
Les enfants métis, moi, je les aimais bien. Il n'y avait pas de problème. Mais je crois qu'il y avait un peu de condescendance de la part du maître ou de la maîtresse vis-à-vis d'eux. Parce qu'ils avaient gardé peut-être des façons de faire d'un autre temps. Par exemple, pour le jour de l'an, ils apportaient une boîte avec plusieurs douzaines d'œufs. Et alors le maître leur disait, on ne fait pas ça, ça ne se fait pas, c'est pas, ça n'est pas civilisé. Ce qui était complètement idiot. Enfin bon, c'était comme ça. Ma mère était très heureuse parce que bon, elle avait une vie facile. Et Ensuite, ça lui a beaucoup manqué. Quand mon père a pris sa retraite, elle n'a plus de cuisinier, ni de tibas, ni de personne.
Et votre père, comment il ressentait le pays ?
Mon père, il avait l'habitude. De toute façon, il y avait été tellement d'années que pour lui, c'était pas son pays, mais presque. Ça le gênait pas du tout d'être là. Il était officier, donc en principe un officier c'est quelqu'un d'un peu dur. En fait, il n'était pas dur du tout. Il a jamais envoyé un coup de pied aux fesses à aucun domestique, ce qui se faisait beaucoup. C'était quelqu'un de très sensible. Avec ma sœur et moi, il était très gentil. Il nous emmenait le dimanche chez l'épicier chinois acheter des bonbons. Alors on avait chacune un bocal de bonbons, des raisins secs. L'épicier s'appelait Kiem. Et alors, tous les dimanches, papa nous emmenait en pouce, bien entendu. Et alors, on allait là et papa nous achetait tout ce qu'on voulait. Et puis, si on avait envie d'une poupée ou de n'importe quoi, il nous le donnait aussi. Il est vraiment très gentil, alors que maman était très sévère.
Est-ce que vous avez des souvenirs de votre tiba ?
Ma tiba, oui, je la revois comme si je l'avais vue hier. D'ailleurs, elle voulait venir avec nous. Mes parents n'ont pas voulu l'emmener, mais elle voulait venir en France avec nous, abandonner toute sa famille et venir avec nous. Et elle disait qu'on la mette dans une malle parce qu'elle nous aimait beaucoup. Elle était gentille comme tout, mais c'est drôle parce qu'elle ne devait pas être vieille. Elle avait l'air d'être vieille.
Et vous parliez quelle langue avec elle ?
Ben, je parlais français.
Elle savait, elle avait appris à parler français.
Oui, elle parlait français. Oui, moi, j'ai su quelques mots de vietnamien, mais vraiment quelques mots. Par exemple, je savais dire le chat, le chien, le cochon. Je savais dire vite ou enfin des mots comme ça, quoi, des mots usuels. Mais j'ai jamais appris la langue indo-chinoise. C'est dommage d'ailleurs. On aurait dû me la faire apprendre.
Mais cette tiba, qu'est-ce qu'elle faisait pour vous, par exemple?
Elle restait là pour qu'il y ait quelqu'un à la maison quand les parents étaient partis. Je veux pas du tout dire que nos parents nous abandonnaient, hein, c'est pas ça. Mais simplement, c'est vrai qu'ils étaient très occupés. Ils bridgeaient beaucoup, ils jouaient au tennis, puis ils allaient dans des soirées, dans des cocktails, et voilà. D'ailleurs, moi, j'adorais voir ma mère en belle robe quand elle s'en allait à une soirée, ça me plaisait beaucoup.
Et vous arriviez à quand même avoir des petits aperçus de la vie mondaine ou c'était totalement fermé pour les enfants ?
Oui, alors quand mes parents recevaient, quand ça se passait chez nous, je grimpais le long de la façade de la véranda et je regardais à l'intérieur pour voir. Normalement, j'aurais dû être couchée, alors j'allais me coucher, bien sûr. Et puis ensuite, je redescendais dans le jardin. Puis je regardais, je voyais les grandes personnes qui s'agitaient, qui jouaient à des jeux, qui parlaient, qui dansaient. C'était très amusant. Il y avait un vieux phonographe, vous savez, on tournait la manivelle encore. Et voilà, alors il y avait de la musique de cette époque-là.
Et qui est-ce qui vous préparait à manger ?
Ah ben, c'était le cuisinier, le BEP. C'était un monsieur qui avait une figure jaune et longue et quatre poils de barbe de chaque côté. Et il venait tous les soirs à côté de ma mère après le dîner pour lui demander ce qu'il devait faire pour les repas du lendemain. Et alors il y avait quelque chose qui revenait tout le temps que moi j'entendais comme ça. Bœuf Mathieu, cervelle Benoît. Et moi, j'ai gardé ça dans ma tête. Je savais pas bien ce que ça voulait dire. En fait, c'était du bœuf nature et de la cervelle au beurre noir. Alors ça, je l'entends encore dire ça.
Et vous êtes jamais allé l'accompagner au marché ou des choses comme ça? Vous avez jamais vu?
Oh non, j'avais pas le droit. Et de toute façon, j'avais même pas le droit d'aller à la cuisine parce que les domestiques entre eux mangeaient. Des choses qu'ils avaient préparées, qui étaient pour eux. Et quand j'étais dans la cuisine, ma mère ou quelqu'un d'autre venait me chercher parce que j'avais pas le droit de goûter à cette cuisine-là.
Donc on lui faisait faire de la cuisine française.
On mangeait toujours de la cuisine française, faite avec des produits qui venaient de Hong Kong. du beurre, du fromage, on mangeait des camemberts, enfin tout ça quoi. Et bon, bah, voilà, on buvait du lait en boîte, bien entendu, parce que autrement, le lait de bufflonne, c'était pas bien. Et voilà, enfin bon, alors nous vivions vraiment à la française, sauf que moi je m'échappais et je vivais ma vie dans le jardin.
Saïgon, le 2 juin 1947. Ma bien chère Gisèle. Un petit mot rapide, écrit du bureau où je suis inactive. Je viens encore de passer par des crises domestiques. C'est en fin de compte ce qui me donne le plus de travail et de soucis. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, c'est mon bureau qui est en repos. Je finis par bien connaître les indigènes d'ici, les boys et les boyesses. Et je les déteste de plus en plus. Ce sont tous des forbans. Ils ne font rien, sans salle, voleurs sur une échelle incommensurable, menteurs et fourbes pour couronner le tout. Tu vois ce portrait. Tu peux penser que je ne suis pas très altruiste. Je t'assure que je suis en dessous de la vérité. Depuis 7 ans et demi que je suis à Saïgon, j'en ai vu de toutes les couleurs avec mes domestiques. Et les plus mauvais ont été ceux auxquels j'avais fait des largesses, que j'ai traités avec gentillesse, leur faisant des cadeaux. Ceux-là disent maintenant partout que je suis méchante et empêche les domestiques de venir chez moi. C'est simple et bien commun. Un Européen qui est bon avec eux, s'il parle l'anamite, les entend dire entre eux, celui-là, beaucoup bête. C'est encourageant. Toujours dans le bain mort de Saïgon, il n'a jamais fait aussi chaud et humide. Que deviens-tu dans la douce Alger? Un petit mot de toi serait une joie. Je t'embrasse très affectueusement, Lout.
Première maison, c'était la plus belle. Elle était bordée par une mare. Et alors sur la mare, moi j'y allais quand c'était pas permis, pendant la sieste, pendant que les parents dormaient. Alors il y avait des œufs de grenouille, il y avait des petites bêtes, il y avait aussi des serpents. Mais moi j'ai jamais eu peur des serpents. J'avais pas peur des bêtes. Je prenais des crapauds dans mes mains. Enfin, j'étais vraiment très très proche des animaux. Il y avait des scolopendres bleus qui avaient 10 cm de long. Et il y avait des coléoptères de toutes sortes, très étranges, avec des cornes un peu partout. Et puis il y avait des papillons, des grands papillons absolument magnifiques.
Et vous vous souvenez de votre première mousson?
Oui, je me rappelle. Il pleuvait, c'était horrible. Et alors nous avions des animaux, nous avions un poulailler, puis un cochon, puis je ne sais quoi. On avait ouvert les portes de la maison pour rentrer les animaux, parce que le poulailler s'était envolé. Alors on avait rentré les animaux dans la maison, vaille que vaille. Alors on ne pouvait plus aller faire pipi sans avoir 50 poules qui vous sautaient sur les épaules. Le cochon était dans le salon. Enfin, il y avait de l'eau partout, c'était extraordinaire. Et ma sœur et moi, on se régalait, on s'amusait beaucoup. Mais alors le vent soufflait, c'était un truc invraisemblable. La porte de la cuisine est partie, les casseroles se sont décrochées et sont allées tomber dans 3 jardins plus loin. Enfin, c'était vraiment un typhon vraiment extraordinaire. Et je crois que c'est là que j'ai appris à l'imaginer.
Mais c'est des existences inoubliables. Il ne fait jamais froid, vous imaginez un peu ça. À la mousson, il fait trop chaud. Mais il fait toujours bon quand même. Le soir, toutes les nuits sont fraîches. C'est la fête. La fête, quoi, c'est inimaginable. Ça tombe droit comme ça. Il n'y a pas d'orage. Comme si on versait des milliers de litres d'eau, quoi, droit. Tout est inondé. Les rues, les routes, les jardins, tout est inondé. Les paillotes. La mousson, elle gronde pas, il n'y a pas de tonnerre. C'est comme des continents de nuages qui avancent, mais très doucement, gentiment. Et puis, tac, ça tombe. Tout le monde court, les enfants. La force de l'eau peut les blesser. C'est tout petit. J'en parle beaucoup de la mousson. C'est un des grands souvenirs, ça. Ce qui arrive, les tonnes et les tonnes de pluie.
Ça, c'est les plantations de tudomates.
C'est des plantations de vanille, hein,
oui, oui.
Vous avez vu des plantations comme ça?
J'ai déjà vu ça. Ouais. Ah, ben oui, là.
Alors là, c'est quoi?
C'est extraordinaire.
C'est les anamites, là, c'est sur le marché.
Oui, c'est ça, les anamites. C'est très bon, ça. Alors ça, c'est magnifique. Tudomates, pareil aussi. Ah, là.
Là, c'est les fonderies.
Canne à sucre. Du canne à sucre. Ah, tcholon. Chasse. Banteng, ça c'était du bœuf fantastique. Il y avait le banteng, le bœuf banteng qui était déjà énorme. Pas mal. Ah ça, oui, alors là, c'est vrai que c'était un pays très marécageux autour de Saigon, entre Mito, Gokong, Vinlong et tout ça, qui était le pays du riz, de la culture. Alors,
là c'est Sadek.
Oui, je connais Sadek, très bien.
Yves Grosjean, vous êtes né en Indochine?
Oui.
Vos parents sont en Indochine, je crois, et même vos grands-parents?
Oui. J'aime ce pays. J'aime beaucoup, autant que la France. Ça se comprend aisément, parce que, comme je suis né, j'ai entretenu des amitiés, et il est resté avec moi des souvenirs extraordinaires. Quand j'étais tout jeune, j'étais invité très souvent avec ma famille à passer, par exemple, un week-end dans une plantation, chez un assistant ou chez un directeur. Et on partait à ce moment-là et on allait chasser. Alors on allait chasser, non pas à l'oreille des plantations, mais vraiment à 200-300 kilomètres de la ville. Notamment, par exemple, si c'était en Annam, sur les plaines de la Lagna, vers Djirin, c'est-à-dire vers Dalat, où il y avait une faune extraordinaire. Et également au Cambodge. Pour chasser le tigre, on ne chassait pas que le tigre. Il y avait d'autres aussi, il y avait le cerf. Et puis notamment, il y avait, ça c'était alors la panthère, bien entendu aussi, l'éléphant, bien entendu. La chasse la plus intéressante, eh bien, c'était le gor. Le gor est un animal, imaginez un genre bovidé, minimum 2 mètres au garrot. Hein, avec des cornes jaunes, toujours inégales, 80 cm environ et 1 mètre d'un côté. Fines comme des lames de rasoir, jaunes, je dis bien. Le corps étant bleu, bleu d'huile. Avec des petites bottes, des petites bottines, si vous voulez, les taches étaient blanches jusqu'au genou. C'est magnifique, magnifique. À voir, c'était extraordinaire. Et le gor ne bouge pas. Hein? Alors, il se balade, il trouve... C'est un animal très fier, mais très méchant. Et il ne peut pas sentir l'être humain. Dès qu'il le sent, il fonce dessus. Dès qu'il le sent, il n'y a pas de rémission. Alors, attention, une tonne. Hein? 2 mètres au garrot, une tonne minimum. Je ne sais pas si vous voyez la tête, ce que ça peut être. C'est très rare. Et on met au moins, en général, pour chasser le gor... Il faut aller très loin, on met au moins toujours une douzaine, une quinzaine de jours, et encore on n'est pas sûr de le trouver parce qu'il est très méfiant. Et il est dans les hautes herbes, souvent dans les hautes herbes.
C'était quoi les loisirs des...
Les loisirs. Alors, il y avait pour... évidemment, le français qui... Le gosse, le jeune homme que je suis devenu après, nous passions des loisirs, nous allions dans les plantations où nous étions invités, bien sûr. Et les loisirs, eh bien, il y avait d'abord le plaisir de se voir. Alors, on était accueillis dans la maison, dans la villa. Ils avaient tous des belles villas. Évidemment, il y avait un court de tennis, et bien on jouait au tennis. Il y avait une rivière, on allait au bord de la rivière et on se baignait. Il y avait quelques plantations, certaines avaient même un terrain de golf, qui servait également de terrain d'aviation pour les militaires et pour les civils. Alors, on est là. Également, j'ai eu l'occasion de visiter assez souvent les Terres Rouges. Comme je peux vous l'affirmer, les Terres Rouges détenaient la plus grande plantation du monde entier. C'est pourquoi d'ailleurs, les Anglais nous jalousaient beaucoup, entre parenthèses. Ils avaient d'ailleurs de très belles plantations en Malaisie.
Il venait de parcourir des hectares de plantations. Il avait surveillé un moment le travail des défricheurs qui incendiaient un coin de brousse où les bambous éclataient avec un bruit de fusillade. Il s'était arrêté chez un de ses chefs de section, un jeune Français qui grelottait de fièvre. Il avait fait halte à l'usine, regardé les cuves, traversé les séchoirs, et parti depuis l'aube, il ne rentrait qu'avec le plein soleil, quand la torpeur écrasante de midi étend les coulis anéantis sous le toit des paillotes. Ayant entendu la voiture, un boy s'y était précipité et avait mis le gramophone en marche. Nous entrâmes salués par un air de jazz. Mon jeune hôte me regarda en riant. « Cela vous étonne, hein ?» J'ai dressé un de mes anamites. Dès que je rentre, l'orchestre doit commencer. Je prends mon cognac soda en musique, je déjeune en musique, je bois mon café en musique, ensuite une demi-heure de sieste et oust, au travail. Comme cela, je n'ai pas eu le temps de réfléchir. Vous comprenez? Sur les 10 000 hectares de concession, on ne connaît pas d'autre maître. Lui seul commande, lui seul est responsable. 3 200 coulis, 700 000 arbres à caoutchouc, une usine, des services de transport. Les administrateurs, les actionnaires ne veulent connaître que les dividendes, le reste ne les regarde pas. Savent-ils seulement où se trouve leur plantation? Quelque part, là-bas, en Cochinchine.
Les principaux coulis ou travailleurs de plantation étaient des gens qui revenaient du Tonkin. Parce que le Tonkin, c'est bien connu, est un pays pauvre. Il n'y avait pas assez de riz, on ne pouvait pas assez manger. Il y en avait qui étaient là depuis 30 ans, 25 ans, 20 ans, 15 ans. Une fois qu'ils étaient dedans, ils ne quittaient plus. Pourquoi? Parce que la vie était saine, ils travaillaient dur, c'est un fait, mais en complète liberté. Cela veut dire qu'ils avaient aussi leur maison, ça veut dire qu'ils avaient leur cuisine, leur petit compartiment, leur salle à manger, leur petit jardin. On avait construit pour eux des bonzeries, selon les catégories de religion qu'ils avaient. Il y avait une petite chapelle, il y avait un dispensaire, il y avait un docteur qui venait, un infirmier qui venait, tout était réglé comme du papier musique. Ça veut dire que ces gens-là étaient heureux, ils ne voulaient pas partir. Les contremaîtres, c'était des contremaîtres vietnamiens. Anamites, dirons-nous, à l'origine, c'était ça, on l'appelait, les vietnamiens anamites. Mais enfin, maintenant on appelle ça vietnamiens. Bref, ces contremaîtres étaient bilingues, bien entendu. Ils parlaient le français et ils parlaient le vietnamien. Les ordres, en quelque sorte, les conseils ou les ordres, parce qu'il fallait tout de même travailler à un moment donné, hein, et en même temps. Donc, on donnait des ordres en vietnamien. Il faut dire aussi que beaucoup de ces coulis commençaient à parler français. Ils comprenaient. Hein. Et d'autre part, l'assistant de plantation qui était là, donc, qui surveillait, dirigeait le travail de ses employés, de ses coulis, lui parlait le vietnamien. Le Tonkinois était beaucoup plus travailleur, c'est connu, que le sud, que le Cochin chinois. Dans le nord, ils étaient très travailleurs, parce qu'ils n'avaient rien à manger. Donc, il fallait se sacrifier. Vous savez, la pièce, c'était bien une pièce, c'était gagner la sueur du front. Tandis qu'en Cochinchine, dans le sud, qui était un pays prospère, dû à des ressources agricoles énormes, très riches, les gens se laissaient vivre. Il y avait quand même trop de laisser aller là-dedans. Et il a abouti, finalement, il a abouti quelque chose, c'est qu'il y avait cette jalousie du Nord vis-à-vis du Sud, et cette rancune aussi, parce qu'il crevait de faim, et le Sud ne semblait pas s'en inquiéter. Le sudiste par lui-même, lui, après avoir fait son travail, s'il avait son petit poisson sec et son yokbam et son petit riz, je généralise, hein, j'en fais un symbole, mais ça lui suffisait. Avec le Nord, d'abord, ils avaient beaucoup de familles, ils faisaient beaucoup d'enfants, c'est très studieux, ils voulaient arriver sur autre chose. Je leur tire mon chapeau. J'ai été élevé par deux, pas de nourrice, mais...
Tibar,
oui, c'est ça, oh, vous connaissez bien la chose. J'ai été élevé par une tiba, mais qui était chapeautée par une chinoise qui s'appelait Assam. Il y a eu beaucoup de Français qui ont ramené ici leur Assam et leur tiba, énormément. Et qui ont reçu des petits cadeaux et qui ici maintenant se trouvent dans le 13e. Elles n'en parlent pas trop parce qu'il y a une nouvelle jeunesse et tout ça. Mais elles sont là, elles sont vieilles maintenant. Mais si elles sont là, c'est grâce à ces Français qui les ont aimés, l'ont amené. Je ne parle pas, attention, je ne m'attendrai pas. Hein. Je dis la vérité. Hein. Moi, mon Assam, par exemple, m'a suivi depuis mon plus jeune âge jusqu'à l'âge de 38 ans. Elle me disait, elle me tutoyait, bien entendu, je la considérais comme ma mère. Hein. Elle me disait, mais non, mais dis donc, tu rentres là. Quand j'étais déjà patron, parce que j'étais pas sur l'entreprise, mais quand je rentrais à la maison pour ressortir après, dîner quelque part, elle me dit, tu vas pas sortir avec cette chemise sale? Tu as pas honte? Elle me tutoyait. Tu as pas honte? Je t'interdis. Voilà ta chemise, elle est là. C'est extraordinaire.
Est-ce que vous trouviez les femmes là-bas belles? Est-ce que vous auriez pu envisager, par exemple, de vous marier avec une anamite?
Pourquoi pas? Ça, cette question que vous me posez laisse un peu supposer une tendance où il y avait un racisme qui existait. Pas du tout. Alors pourquoi y aurait-il eu tant de mariages et de métis et d'Eurasiens, hein? Quand même, le français ne se cachait pas. Hein? Moi, je connais ici, dans le 16e, des tas d'Eurasiennes qui ont 70-75 ans, qui sont mariées à des anciens français, enfin des gens qui sont morts maintenant, parce qu'ils les prenaient plus jeunes, hein? Bien entendu, il y avait toujours 15 ans de différence à peu près, mais elles sont là. Donc, il n'y avait pas ce racisme. Moi, j'aurais connu un ami, pourquoi pas? J'ai eu des amours avec des amis, avec des Vietnamiennes. Mais vous parlez là, question sentiment ou question sexuelle ou question quoi?
Les deux,
non, parce que c'est une grande différence.
C'est très belle quand même,
Oui, c'est vrai. Les tonkinoises, d'ailleurs, c'est plus belle que, à mon avis, que le Sud, parce que plus forte, plus charpentée, se rapprochant davantage de la française. Tandis que la petite vietnamienne, qui est charmante aussi, attention, était mince, fuette, oui. Et mais il y avait également la chinoise. La chinoise qui était très, très, très belle. Et d'ailleurs, lorsque là-bas, on a commencé à fonder des boîtes de nuit, il y avait des taxi girls, qu'on appelle des taxi girls. Ce n'étaient pas des prostituées, hein, attention. Que l'on louait pour des danses, hein, avec des tickets. Bon. Un peu comme aux États-Unis. Mais surtout les chinoises. Qui est arrivé de Shanghai, qui est arrivé de Hong Kong, mais qui était super belle.
Quand le soleil descend à l'horizon, à Saïgon, les élégantes s'apprêtent et s'en vont de leur maison. À petits pas, à petits cris, au milieu des jardins fleuris, où volent les oiseaux jolis du paradis. Tendrement enlacé, se grisant de baisers, les amants deux par deux cherchent les coins ombreux.
Le premier homme que je désirais était vietnamien. C'est Tan. Et jamais, jamais, je pourrais l'oublier, jamais. la douceur, la beauté aussi, la peau, incroyable. Un homme de soi, la gaieté, Tan, ça se prononce, oui, le H que je mets à Tan, on le sent, c'est pas Tan, c'est Tan.
Nuit d'Chine, nuit câline, nuit d'amour.
Nuit d'ivresse, de tendresse.
Vous savez, l'Indochine, c'était très tentant. Hein. Il y a eu des Français qui sont abonnés à l'opium. Mais les cas sont rares, hein. Il ne faut pas croire ça. Hein. Encore une fois, c'est le bouquin du fumeur d'opium de Claude Farrère, par exemple. On voit les gars, etc., marqués par le destin. Ah, de ce sujet, d'ailleurs, de l'opium, il y a beaucoup de gens ici qui exagèrent énormément. Toujours, d'ailleurs, on a toujours dit que si on fumait l'opium... Ah, j'ai entendu souvent, moi. Ça m'amusait beaucoup. Des gens que dont certains, vous connaissez le nom, quand ils ont dû l'Indochine 15 jours, puis ils disent oh, j'ai fumé l'opium. J'ai fumé de pipe et j'ai connu le nirvana. Ben oui, mais savez-vous que si vous fumez une pipe, deux pipes, trois pipes d'opium, ça vous fait l'effet d'une petite cigarette. La gauloise est plus forte que l'opium. Donc pour être opiumane, il faut fumer au moins 60 pipes par jour. Minimum.
Mousse mes jolies, dont mon cœur était pris, je veux l'oublier. Puisque de toi mon amour infini reste incompris. L'opium endort les malheureux et les emporte jusqu'aux cieux dans un nuage merveilleux de fumée bleue. Dans le soir qui s'enfuit, loin des champs, loin du bruit, sur la natte endormie, le beau rêve a repris.
Les Français avaient aussi fait les civils. Quand je parle des civils, du secteur privé, c'est pas fonctionnaire, hein. Avaient organisé, avaient fait un club qui était fantastique, qui s'appelait le Cercle Sportif Saïgonais, qui était plus grand et plus beau que le Racing. Mais c'était extraordinaire. Nous étions très jalousés et très admirés. Alors bien sûr, il est facile de dire, à 15 000 km de là, avec des pensées intellectuelles, de dire que, ah, ces gens-là, vous voyez, ce sont des richards. Ils ont mérité ça. Ils sont arrivés comme mes grands-parents, mes arrière-parents, en 1890, ils en ont bavé, ils en ont tué. Un jeune employé de commerce qui est arrivé de France pour travailler là-bas, il n'avait pas la possibilité d'avoir une villa ou une maison. Hein. On lui donnait un petit compartiment, un petit endroit pour coucher, et c'est tout. Et ça pendant 3 ans. Il fallait qu'il fasse ses preuves. Après avoir fait ses preuves, alors là, on améliorait ses conditions. On lui donnait des primes, c'était un peu comme une école, hein, ou une université, vous voyez. Il fallait façonner le gars, le faire travailler, voilà. Donc il fallait quand même une certaine discipline.
Ils s'installèrent sur la terrasse ombragée de chaume de la Pointe des Blagueurs. Autrefois, c'était l'endroit à la mode. Placé juste en bas de la rue Catina, face au port, il était parfait pour y attendre le courrier venant de France, y échanger les potins de la ville, échafauder des projets, traiter des affaires. Mais les riches colons et les fonctionnaires de haut grade lui préféraient désormais le continental, désertant la pointe que ne fréquentaient plus guère que les petits blancs, agents ou commis, modestes concessionnaires, transporteurs ou policiers. Là, son œil perdu dans les brumes qui montaient de la rivière, Francis évoquait sans enthousiasme sa vie quotidienne. Après 16 mois de présence à Saïgon, mon bilan n'est guère encourageant, avoua-t-il. Je me rappelle encore l'entrevue que j'avais eue à Lyon avec un représentant de la compagnie, un quadragénaire à tête de chanoine qui m'a longuement interrogé, parlant de l'Indochine comme d'un Eldorado. Il me faisait miroiter un salaire fabuleux, 800 francs par mois. Peu de choses ici. À l'époque, c'était ce que je pouvais espérer en France après 10 ou 15 ans chez mon patron. Je n'imaginais pas qu'avec 800 francs à Saïgon, on a tout juste de quoi survivre. Et encore, j'ai de la chance. On me loge gratuitement, ou presque. Savez-vous combien coûte un compartiment ? 100 piastres par mois, avec au préalable un pas de porte de 3 ou 4 000 francs. Francis rit. Parlons-en des compartiments. Ce sont des façades à un étage toutes semblables, une porte en bas, une fenêtre au-dessus, et dedans, une sorte de couloir étroit et humide, noir comme un cachot où le soleil ne pénètre jamais.
Alors, il y a eu une étroitesse, c'est certain, d'esprit, pas d'esprit, mais de caste, de clan, entre les fonctionnaires, d'une part, le privé, d'autre part, et les militaires, d'autre part. Alors, même chez les militaires, étant donné leur rang, par exemple, au club, comme au Racing, ici, on admet facilement un officier militaire parrainé par deux personnes, c'est encore le cas, mais on va pas admettre un caporal ou un soldat de deuxième classe au Racing Club de France. Non. Alors, donc, la caste était comme ça, elle existait partout. Par exemple, je vais vous faire un petit symbole, là, hein, en exagérant un peu. La femme de l'administrateur-chef de la province d'un tel ne pouvait pas aller voir la femme du sous-chef de service de la mairie. Ça, non.
Quel meilleur poste pour observer ces jeux de hiérarchie figée que les fauteuils en rotin de l'hôtel Continental, un des lieux mythiques du Saïgon colonial, avec le cercle sportif et la cathédrale en haut de la rue Katina. Philippe Franchini, romancier historien, en fut un témoin privilégié, lui dont le père dirigea à la belle époque de la colonie l'hôtel Continental.
Il y avait un clivage. Mais par exemple, n'oubliez pas que il y avait deux exemples précis. C'était le Continental lui-même, qui était le reflet de la colonie. Donc, les sous-officiers ne venaient pas, parce que les officiers ne voulaient pas frayer avec les sous-officiers, vous voyez. Et les Vietnamiens ne venaient pas, un peu aussi par complexe, ne venaient que des gens vraiment importants. Or, le patron était marié avec une Vietnamienne, mon oncle y allait, hein, ils y allaient, mais si vous voulez, c'était pas vraiment fréquenté par le... Il a vraiment été fréquenté à mon époque, quand j'ai pris la direction de l'hôtel. J'ai mis un directeur vietnamien, j'ai un peu vietnamisé les choses, et c'est devenu un peu à la mode chez les Vietnamiens, mais il y avait un esprit de conquête. C'est-à-dire que les Vietnamiens disaient, hey, on est dans l'hôtel. Vous savez, l'esprit colonial est resté, l'esprit de coloniser à la fois et de coloniser, a survécu longtemps après l'indépendance. Survécu très longtemps après l'indépendance. Mais il y a le deuxième exemple, c'est le cercle sportif. Le cercle sportif saïgonais, il y avait très peu de Vietnamiens qui avaient accès. Il fallait avoir la nationalité française, comme moi d'ailleurs au lycée Chasuloba, parce qu'il y avait un lycée pour les Vietnamiens. Le lycée Chasuloba, c'était des Vietnamiens. Il y avait beaucoup de Vietnamiens. Hein. Ils remportaient même beaucoup de prix. Si je vous montre, ils ont plus de 50% des premiers prix. Voyez. Mais les parents avaient la nationalité française. C'était déjà des gens, si vous voulez, d'une classe huppée, quoi. Eh bien, au cercle sportif, c'était manifeste. Mais au cercle sportif, il y avait vraiment une atmosphère. Maintenant, vous savez, les coloniaux, ils oubliaient les choses.
Et par exemple, au lycée, il y avait... Comment ça se passait entre les élèves? Il y avait trois groupes. Il y avait les Français, les Métis et les Vietnamiens. Ou c'était compliqué?
Non, c'était plus compliqué. Ça dépendait des gens, ça dépendait de la situation du père. Par exemple, un Métis dont le père, avocat, vietnamien, mais la mère française... Lui, il était privilégié. Et moi, j'avais des amis français. Enfin, non. C'était pas, il y avait pas un tel clivage. Il y avait un clivage avec certains Vietnamiens, quoi. Il y avait des Vietnamiens qui étaient très, très intégrés. C'était assez complexe. C'est-à-dire qu'il y avait une atmosphère, quand même, une atmosphère d'inégalité qui n'allait pas jusqu'à la ségrégation, du genre Afrique du Sud. Non, c'était pas ça. Non, parce qu'il y avait le principe républicain. À l'époque, non, il ne faut pas oublier qu'à l'époque des années 20, 30, c'était l'époque des théories racialistes. On dit racialiste, vous savez, la hiérarchie des races, enfin, qu'a donné Hitler. Hein. Enfin, je veux dire qu'il y a eu des théories qui montraient les... Et puis, il y avait la domination de l'Occident qui a imposé partout ses critères. Et ce sont ces choses-là qui ont fait que, malgré tout, ces peuples... Vous savez, on disait qu'en franchissant le canal de Suez, c'était tout d'un coup, l'Européen se sentait vraiment européen. Mais l'Europe... conquérante dominante, vous savez, c'est qu'à partir de ce moment-là, il y avait un passage qui faisait que on n'était plus en Méditerranée, en Europe, on était dans les pays pauvres, les pays qu'on dominait. Et c'est vrai que cette espèce de décalage dans le temps entre les civilisations faisait que la technologie était entre les mains de l'Occident quand même. Et c'était par la technologie que l'Occident dominait. Or il y avait une telle mentalité que c'était absolument impossible qu'il y ait une colonie idéale dans ces conditions-là. On oublie certaines choses. Ça ne veut pas dire non plus que tout le monde avait des attitudes arrogantes, mais il y en avait beaucoup qui avaient vraiment des attitudes au moins arrogantes.
Vous en avez vu ?
Ah oui, puis il y avait des affrontements, enfin, il y avait des affrontements de gosses, des bagarres, des insultes. Les insultes, et vous savez, une insulte, ça a l'air de rien. Quand il n'y a pas une situation d'affrontement, vous vous en moquez ou vous réglez ça en répondant. Mais là, l'insulte ne s'oublie pas. Et croyez-moi, il y a pas mal de Vietnamiens qui ont choisi la révolution uniquement parce qu'ils ont été insultés et humiliés. Vous savez, quand vous voyez un petit blanc, ce qu'on appelait un petit blanc, insulter un homme de grande culture ou important... Eh bien, il le gardait avec lui. Alors, il y a eu des réactions contre ça. Il ne faut pas non plus voir la colonie comme, si vous voulez, un rassemblement de garde-chiourme. Hein. Il y avait des francs-maçons, il y avait des socialistes, il y avait des gens qui prenaient au contraire le contact et tout. Par exemple, j'ai appris après, en étudiant l'histoire, par les documents, que certains de mes professeurs, par exemple, étaient des gens de la Ligue des droits de l'homme.
Il faut faire la part des choses.
Monsieur Tranvanke.
Moi, je n'ai jamais accepté la colonisation et j'ai même lutté, participé contre la colonisation. Mais je n'oublie jamais le bienfait de mes maîtres et je leur dois beaucoup. Et tous mes maîtres m'aiment beaucoup. Et à partir de la classe de troisième, j'avais un professeur de français qui m'a appris à bien écrire et à bien parler. Et c'est pourquoi, lorsqu'il m'a donné une très bonne note, pour moi, c'était un encouragement et cela m'a permis, cela m'a permis de me perfectionner davantage. Et eux, ils n'ont pas hésité à m'inviter chez eux après les cours. J'étais dans un lycée vietnamien. C'était un lycée Petrovski, c'était vietnamien. Nous avions seulement des professeurs français, mais nos camarades français étaient dans un autre lycée, le lycée Chasseloup-le-Bas. Il y avait une séparation entre français et vietnamien. À l'université, par contre, nous étions avec les camarades français.
Et comment ça se passait alors avec eux?
C'était très très bien, parce que pour moi, je me suis entendu très bien avec mes amis français, et surtout avec mes maîtres. Du reste, à ce moment-là, l'enseignement, sous le régime colonial, c'était un enseignement purement français. C'est-à-dire mathématiques, physique, géographie, histoire, tout en français. Nous avons appris le vietnamien comme langue étrangère.
Les Français de la période coloniale buvaient beaucoup de cognac parce qu'il n'y avait pas de whisky. Et puis bon, on préférait le cognac français avec du soda.
Marcelino Truong.
Et ça s'appelait un cognac soda. Et au lieu de dire un cognac soda, à la terrasse du Continental, souvent on disait un gnac. Bon, c'était une blague du... Gna, ça veut dire maison, quoi, c'est la campagne. En vietnamien, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est le... Pecno des rizières, disons, c'est le trimardeur des bouseux des rizières, gnacoué. Les gnacs. Bon, il n'y avait pas que ça, hein. Bien sûr, je vais pas être caricatural maintenant, mais si vous voulez, je pense pas qu'il y ait de colonialisme à visage humain. C'est pas possible d'arriver dans un pays avec un armement ultra moderne. Écraser tout ce qui se trouve devant vous comme résistance, et ensuite s'imposer comme en conquérant, en fait, Alors que personne ne vous a invité, sauf peut-être quelques missionnaires qui ont subi, c'est vrai, des persécutions, mais enfin bon. La colonisation, c'est un viol. Et après, bon, les choses peuvent s'arranger un petit peu, mais au départ, il y a une inégalité. Quand on croisait un Français sur le trottoir, j'imagine qu'on lui laissait le haut du pavé, quoi, c'était ça. Je crois que l'incompréhension de l'arrogance de certains Français, je dis bien certains, parce qu'il y a eu aussi des tas de Français qui ont aimé le Vietnam, qui ont étudié sa culture, qui ont respecté ses habitants, qui ont tout fait comme il faut. Donc certains Français, leur arrogance a précipité les Vietnamiens, nationalistes, disons, dans les bras du communisme. C'était souvent les gens les plus dynamiques aussi qui allaient du côté du Viet Minh.
Voici Union Française, le magazine de la France d'outre-mer présenté par Pierre Ichac et René Potier.
Madame Yvonne Pagnès, vous avez présenté une chose qui nous intéresse aussi, c'est-à-dire la vie quotidienne dangereuse des civils.
Oui, j'ai voulu faire une sorte d'éventail de la présence française en Indochine en donnant des exemples significatifs de toutes les catégories de Français qui vivent et qui luttent là-bas. Par exemple, avec ou sans uniforme. Administrateurs du Haut Commissariat français ou administrateurs également intégrés provisoirement dans les cadres de l'État vietnamien, planteurs, colons, forestiers, ingénieurs des travaux publics, oui, missionnaires, etc.
Puisque dans votre film, on voit aussi bien un officier soigner des malades sur le lac Tonle Sap que la construction d'un barrage.
Est-ce qu'il y avait un côté inquiétant dans la situation
avant-guerre?
Oui.
Non, pas du tout. Non, pas du tout. Alors, il y avait justement, mais rien. Ça se passait très bien. Il n'y avait pas ce côté stressant qui a existé après le coup de force des Japonais, hein, et à la libération surtout. Parce que il y a eu, comment pourrais-je dire ça, une période très très belle qui a existé, que j'ai connue, donc je ne peux pas vous mentir, c'est vrai. Les gens étaient heureux, il n'y avait pas, de stress. Et lorsqu'il y a eu la libération de l'Indochine, alors à ce moment-là, il est venu, évidemment, ça y est, tout de suite, la faune communiste qui est arrivée, les assassinats, les chantages, les Français. Les Français, au début, n'y croyaient pas. Alors il y a eu des enlèvements, il y a eu des assassinats. Et c'est à ce moment-là qu'on a fait, bien sûr, il y a eu un commencement à tout, on a fait appel à la force armée, qui, elle, à ce moment-là, est venue surveiller ces plantations-là, il défendait ces plantations. Alors là, c'était plus une vie. Parce que dormir bien dans une belle villa, obligé de fermer les rideaux, les fenêtres et tout, et lui dire attention, qu'est-ce qui va arriver? Moi, j'ai connu ça aussi. Bon. Mais avant, on dormait les fenêtres ouvertes.
J'ai vu aussi des Françaises. Elles ne sont pas très nombreuses là-bas, car beaucoup de Françaises ont été évacuées avant, au moment après le désastre de Cao Bang, au moment où on a eu de très sérieuses inquiétudes sur l'avenir de l'Indochine. Mais il en reste cependant dans l'armée d'abord, qui font preuve de beaucoup de courage, et puis des femmes de colons, de planteurs, qui sont restées dans des conditions extrêmement dangereuses. J'ai vécu quelques jours dans une plantation de caoutchouc, par exemple, où on ne vit qu'une mitraillette à la main, jour et nuit. Je me souviens par exemple d'un dîner chez le directeur de la plantation chez qui j'étais reçue, qui avait sa femme auprès de lui. Ils sont tous arrivés, la mitraillette à la main, et pendant tout le temps du repas, ils gardaient leurs armes à portée de la main. Ça faisait un...
Je crois que toute petite, j'ai eu un regard sur le colonialisme et sur la prétention des gens bien, qui a duré jusqu'à maintenant.
Étant enfant, est-ce que vous avez ressenti quand même des éléments de tension entre l'administration française et la population?
Ça commençait, hein, parce que ça, j'en parle dans mon livre. Il y a eu ce qu'on a appelé les événements de Yen Bai. Parce que à Yen Bai, qui était une petite bourgade, pas tellement loin de Namdine, il y a eu des Indochinois qui se sont révoltés et qui sont venus en pleine nuit attaquer le poste français, les officiers. Ils ont tué les hommes à coups de coupe-coupe, ce qui n'a pas dû être agréable du tout. Ils leur ont coupé la tête et ils ont emmené les femmes. Et alors, à ce moment-là, tout le monde était très impressionné. Et alors, on nous a dit, Namdine va être attaquée. Alors, on nous a tous fait aller coucher à la caserne. Alors, on a couché dans la salle d'honneur à la caserne, sur des matelas de fortune que les gens avaient apportés. Les parents avaient apporté, enfin, les mères avaient apporté les objets précieux, les pères veillaient tout autour, et on attendait l'attaque, et on attendait de se défendre. Et puis, ça s'est calmé comme ça, et les pauvres gens qui ont attaqué le poste, ils ont été tous exécutés, mais ça, on nous l'a pas dit. Mais c'était un petit prélude à ce qui devait se passer, après. Mais moi, je trouvais que c'était pas bien d'avoir pris ce pays. Et toute petite que j'étais, je me disais, mais pourquoi on leur a pris leur pays? Pourquoi on les traite comme ça? Parce qu'on les traitait quand même en inférieur. Alors que ça, je le savais pas, mais c'est vrai que leur civilisation était plus ancienne que la nôtre et était remarquable. Et moi, je me rendais compte que c'était pas juste et que c'était pas bien. Mais vous savez, je suivais le mouvement quand même, quoi. Mais je me rappelle comme j'avais honte quand ma mère, il y avait des tailleurs dans la ville. Et ces dames se faisaient faire des belles robes pour les réceptions. Mais alors, elles traitaient le tailleur comme un chien. Et puis, elles fouillaient dans ses tiroirs pour voir s'il n'avait pas volé de tissu avec leur ombrelle en papier huilé. Elles fouillaient, elles regardaient, elles l'engueulaient. Enfin, cette façon de traiter les gens... Je me rappelle mon père qui disait, autrefois... quand on passait sur un trottoir et qu'il y avait un indigène, il descendait dans la rue pour vous laisser la place. Et maintenant, il reste sur le trottoir et il vous croise. Et il trouvait ça très choquant. Et moi, je disais, mais pourquoi c'est pas choquant du tout? Il est sur le trottoir. Et puis voilà, quoi. Toutes les grandes personnes se sentaient de la race des seigneurs. Et puis alors, quelqu'un qui était en France, un simple instituteur, là-bas, il s'appelait professeur. Et bon, il se gonflait, quoi. Le fait d'être dans ce pays, tout d'un coup, ça leur donnait une importance remarquable. Enfin bon, il y avait plein de petites choses comme ça, mais c'était il y a très très longtemps. Alors ça a mis du temps à venir et à se décanter.
Du colonial, je pense qu'elle est aussi simplette que la mythologie du colonial en Afrique du Nord. Est-ce que le fait que l'Indochine soit vraiment beaucoup plus loin ajoute à son étrangeté? C'est très possible. C'est vraiment beaucoup plus long d'aller en Indochine. On y va en bateau encore. On met 3 semaines. Donc il doit y avoir quelque chose de plus lourd pour l'Indochine, pour un colonial de l'Indochine. Ça, il doit se sentir beaucoup plus loin, beaucoup plus éloigné. Je me rappelle par exemple des amis qui racontaient des arrivées, l'arrivée de leur famille en Indochine. Ils étaient colons en Indochine. Et ils racontaient ça vraiment comme un conte de fées extraordinaire, avec leur mère qui était passionnée de piano et qui donc avait exigé que son piano la suive dans les coins les plus reculés où il s'en allait faire planter, je ne sais pas quoi, des EBA ou je ne sais quoi. Et donc exigeant une pirogue sur laquelle on avait fixé le piano et le tout remontant le fleuve Rouge, je pense. C'était extraordinaire. Ils le vivaient, eux, comme un conte de fées extraordinaire. Ils en avaient des très beaux et très bons souvenirs, apparemment. Et ça, c'était très amusant à entendre.
Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a eu beaucoup de contes de fées comme ça qui sont...
Je pense qu'il y a eu beaucoup de contes de fées, oui. Je pense d'une manière générale, ça je crois que c'est dû au fait qu'on a perdu l'Indochine. Je pense que les choses qu'on perd, on les enjolive. Et ils auraient continué à vivre peut-être en Indochine, peut-être que ça ne serait pas devenu conte de fées. Mais ça devient une espèce d'épopée parce que c'est passé, il faut bien la rendre très belle pour expliquer qu'on avait été colons, ce dont on n'était pas si fiers, politiquement, etc., etc. Donc il y avait toute une espèce de double jeu de mythification parce que c'était une perte, et puis une mythification pour se justifier aussi. Bon, sans se justifier, on savait très bien qu'on n'aurait pas dû être là-bas avec nos pianos, mais bon, on y avait quand même été.
Il y a un esprit colonial ?
Je pense, oui. L'esprit de gens qui ont été dans des circonstances que nous ne connaissons pas et une espèce de conscience de leur originalité parce qu'ils ont vécu quelque chose qui n'était pas dans le petit hexagone, bien tranquille, avec ses quatre saisons, etc.
Et l'Indochine, c'était l'extrême de...
Et l'Indochine était l'extrême. Je crois que l'Indochine a bénéficié de tout ce qui traînait de légendes et de récits et de passions pour l'Orient.
Radiodiffusion française. Voici le journal parlé, édition complète du soir.
La situation en Indochine. Au Tonkin, les troupes franco-vietnamiennes, violemment attaquées dans la région de Ninh Binh par des forces du Viet Minh évaluées à 45 000 hommes, résistent partout. Le correspondant de l'agence Associated Press communique ce soir d'Hanoï que la situation des troupes françaises le long de la rivière Dai semble s'être stabilisée, mais qu'une nouvelle tentative du Viet Minh dans cette région est attendue d'un moment à l'autre.
Albert, je vous en prie, vous n'allez pas encore tout me saloper comme l'autre fois.
Madame, le droit de navigation sur le Yangtze-Kiang vous est formellement reconnu par la convention du 3 août 1885. Contesteriez-vous la chose?
Je ne conteste rien. Je vous demande simplement de ne pas tout me casser comme l'autre jour.
Oh, mais pardon. L'autre jour, les hommes de Sun Yat-sen ont voulu jouer au con. Heureusement que j'ai brisé la révolte dans l'œuf. Sans barbarie inutile, d'ailleurs. On l'a coupé que les mauvaises têtes, le matelot Hainaut peut témoigner.
Sur l'honneur.
Bon. Nous allons donc poursuivre notre mission civilisatrice. Et d'abord, je vais vous donner les dernières instructions de l'amiral Desprat. L'intention de l'amiral serait que nous percions un canal souterrain qui relierait le Wang Ho au Yangtze-Kiang. Je ne vous apprendrai rien en vous rappelant que Wango veut dire fleuve jaune et Yangtze-Kiang fleuve bleu. Je ne sais pas si vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange. Un fleuve vert. Vert comme les forêts, comme l'espérance.
Bon, je vois que vous êtes raisonnable, je vous laisse. J'ai des clients à servir, moi.
Hé, dites donc, l'indigène, un coup de bug, hein? Parlons d'autre chose. Mais mon dieu de bordel, je vous offre des rivières tricolores, des montagnes de fleurs et des temples sacrés, et vous me transformez tout ça en maison de poste. Vous plantez votre Babylone normande dans la mer de Chine. Alors, mettez l'eau et l'eau, Michel, on va brûler le village. Où sont les grenades que je les dégoupille?
Nam Salji, l'album indochinois. Hélène Puiseux, auteur de L'Indochine en trompe-l'œil. Jean-Luc Coatalem, suite indochinoise, La table ronde.
Suzanne Proux, la petite tonkinoise, Kalman Lévy. Marie-Étienne, Katana, Scand Édition. Yves Grosjean,
Philippe Franchini, Les guerres d'Indochine, Pygmalion. Continental Saïgon. Récit autobiographique, réédition à paraître en avril 1995 chez Anne-Marie Métellier.
Tran Van Kay, Marcelino Truong.
Merci à Elisabeth Verrière et à Yves Builly pour leurs archives. Les films Goupil Marouge et Le singe en hiver. Entretien de Marguerite Duras avec Caroline Bourgine.
Ambiance, Patrick Marguerite. Lettre de Lout, ambulancière, lue par Nathaniel Esther.
Texte extrait de Sur la route mandarine de Dorgelès, édition Kellach, et de Sud lointain d'Erwan Bergo, lu par Jean-Luc Buquet.
Isabelle Limousin, Maurice Billard, Jean-Marie Charon, Marie-France Nussbaum, Marie-Hélène Bernard, Catherine de la Clergerie.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 21 mars 1995.